Les Années-Lumière, édition du 5 juillet 2009. On a trouvé des flûtes vieilles de 35 000 ans. Cro-Magnon était-il pour autant musicien? Bonjour, ici Sophie-André Blondin. Je prends le relais de Chantal Srivastava pour animer cette édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Merci, chers collègues.
De rien, Sophie-André. En fait, l'été, nos auditeurs ont un 2-pour-1 pour remplacer le seul et l'unique Yannick Villedieu. Mais qu'on ne me fasse pas dire que ça prend deux femmes pour remplacer un homme.
Surtout pas. C'est vous, Chantal, qui nous présenterez en deuxième heure la suite de notre série d'été sur les stars de l'astronomie avec un grand personnage.
Un monument de l'astrophysique moderne. Il s'appelle Subrahmanyan Chandrasekhar, un Indien, un des premiers à combiner la physique et l'astronomie.
Mais avant, l'émission va commencer avec un voyage aux origines de la musique. On a trouvé des flûtes préhistoriques en os de vautour dans une grotte du Paléolithique. Mais la question se pose, est-ce que ces objets sont des témoins de la naissance de la musique? Après ces très vieilles flûtes, Gaëlle Lucia Berdou, il sera question de rapaces bien modernes dans des villes bien d'aujourd'hui.
Les populations de faucons pèlerins prennent du mieux et si vous êtes citadin, pas besoin d'aller très loin pour les observer.
Au courrier ensuite, il sera question de ces fameuses boîtes noires des avions et la première heure des Années-Lumière va se terminer avec une chronique de Rachel Légère sur le ratage d'une tentative de créer un récif marin avec des millions de vieux pneus. Ça se passe en Floride. Deuxième heure, c'est Stars de l'astronomie, notre série d'été avec le reportage de Chantal Srivastava. Et pour terminer l'émission, en rappel, la grande rencontre de notre animateur en vacances, Yannick Villedieu, avec le chantre de la prévention du cancer par l'alimentation, le biochimiste Richard Béliveau. Alors, les hommes préhistoriques faisaient-ils de la musique? Il n'y a pas de réponse simple à cette grande question. On sait que Cro-Magnon fabriquait des instruments sonores, puisque des sifflets, des flûtes, des rombes ont été découverts dans des sites archéologiques. Tout récemment, d'ailleurs, il y a une équipe de l'Université de Tübingen qui a découvert des fragments de flûtes dans la grotte d'Ohlefels, c'est dans le nord des Alpes, en Allemagne. Il y a des fragments de 3 flûtes en ivoire et surtout une flûte en os de vautour presque intacte qui ont été trouvées dans les couches archéologiques qui datent de l'Aurignacien. C'est une période qui s'étend de 37 000 ans à 29 000 ans avant Jésus-Christ. Des méthodes de datation ont permis d'établir l'âge de ces flûtes autour de 35 000 ans. La découverte a fait l'objet d'une publication la semaine dernière dans la revue Nature. Guillaume Porras du laboratoire de l'Institut de préhistoire à l'Université de Tübingen nous explique.
Alors la grotte de Lefès, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle présente une stratigraphie de plusieurs mètres qui documente des changements assez importants depuis le paléolithique moyen, qui est l'homme de Néandertal, jusqu'au paléolithique supérieur, qui est associé aux hommes anatomiquement modernes. En l'occurrence, les découvertes qui ont été faites proviennent de la base des dépôts du paléolithique supérieur, c'est-à-dire ils correspondent aux premiers hommes anatomiquement modernes qui sont arrivés en Europe vers 35 000 ans, 40 000 ans.
Et on a trouvé donc des fragments de flûte en os, des fragments de flûte en ivoire. La plus intéressante, c'est la flûte en os. Qu'est-ce qu'on a trouvé? À quoi ressemble-t-elle?
Alors cette flûte en os, elle est assez incroyable. Elle fait à peu près une vingtaine de centimètres de long. Elle est quasi complète. Alors les reconstitutions permettent d'imaginer que cette flûte faisait à peu près un peu plus d'une trentaine de centimètres lorsqu'elle était intacte. Elle a un diamètre d'à peu près 8 mm. Elle a été fabriquée à partir d'un radius de vautour griffon, un grand rapace dont l'envergure dépasse les 2,30 m. Et donc cette flûte, elle présente 5 trous qu'on voit très clairement, qui sont très clairement faits pour les doigts, donc pour pouvoir composer les notes. Et ensuite, elle présente une espèce de bec à une extrémité où là où vraisemblablement l'artisan puis le musicien pouvait jouer de cet instrument.
Est-ce que c'est la flûte la plus ancienne, la plus complète au niveau scientifique? Quel est le statut de cette flûte?
Ah, c'est absolument incroyable. Alors l'intérêt de cette flûte-là en particulier, qui vient d'être retrouvée donc en septembre 2008 à la grotte de Lefels, est qu'elle provient des tout premiers horizons orignaciens. C'est-à-dire qu'elle provient de la base, le dépôt orignacien fait à peu près 1 mètre d'épaisseur. Et cette flûte a été trouvée à la base, c'est-à-dire elle est vraiment associée aux tout premiers hommes modernes qui sont arrivés dans cette cavité.
Cette flûte, on ne l'a pas trouvée toute seule, on l'a trouvée à 70 cm d'une figurine qui, elle aussi, est très intéressante.
Alors effectivement, si on a bien insisté sur la flûte, et pour cause, parce qu'effectivement ces témoignages musicaux sont tout à fait exceptionnels, effectivement il y a une figurine de 6 cm de hauteur qui a été mise au jour, et c'est une figurine qui est vraiment exceptionnelle. Hein. Elle est composée en ivoire, il faut se la représenter, hein. Elle fait 6 cm, elle fait à peu près une vingtaine de grammes. Elle a de larges épaules, elle a des bras assez courts, des jambes assez courtes, et elle a une poitrine qui est très généreuse. Elle a des mains qui sont très clairement, finement soignées et qui reposent sur le ventre, sur le buste. Et ensuite, la chose qui est la plus incroyable et qui moi, personnellement, l'a le plus surpris, mais bien sûr tout le monde, c'est l'absence de tête. C'est-à-dire que la tête ne manque pas, la tête n'a pas été représentée. C'est-à-dire qu'à la place de la tête, il y a un anneau, très clairement, et en plus il y a des polis d'usure qui sont associés à cet anneau, qui montrent très clairement que cette figurine, qui est donc la plus ancienne, une figurine féminine qui est aujourd'hui connue dans le monde, était utilisée comme pendentif.
Et sa proximité de découverte par rapport à la flûte nous dit qu'elles étaient peut-être utilisées dans un même contexte.
Effectivement, après, ce qui est sûr, c'est qu'elles relèvent elles sont contemporaines à un niveau archéologique. Elles sont contemporaines, donc ce que l'on voit, c'est une ambiance culturelle qui est riche, qui est, on va pas utiliser le mot compliqué, mais qui est ramifiée, qui est composée de différents éléments culturels et cultuels. Et donc c'est tout à fait intéressant et innovant.
Guillaume Porras du laboratoire de l'Institut de préhistoire de l'Université de Tübingen qui commentait donc la découverte de fragments de flûte et d'une figurine féminine qui aurait environ 35 000 ans. Ce ne sont pas les premiers instruments sonores préhistoriques que l'on trouve. Tinaïque Clodoré Tissot de la Maison de l'archéologie et de l'ethnologie de Nanterre en France a même fait une spécialité des instruments préhistoriques. Elle nous présente la galerie des instruments que les Homo sapiens sapiens, les premiers hommes modernes du paléolithique supérieur, ont construit. Des sifflets, par exemple, comme des phalanges de rennes dont voici, attention à vos oreilles, la douce mélodie.
On ne peut pas parler de musique, on parle surtout d'instruments sonores. Le sifflet, souvent sa première fonction, c'est la communication à longue distance. C'est justement là, avec ses phalanges sifflantes de rennes, l'homme a inventé en réalité un objet qui lui permet de communiquer à longue distance en émettant un bruit qui se distingue bien des bruits ambiants, un son qui se rapproche aussi du sifflement de l'aigle et qui ne fait pas fuir les animaux. Alors au niveau des fréquences, on se rend compte qu'on est effectivement dans une zone de grande sensibilité de l'oreille, entre 1700 et 3900 Hz. Et ce qui est amusant, c'est que ce sifflet, finalement, il a été utilisé jusqu'au début du XXe siècle dans le territoire des Mackenzie, au nord-ouest du Canada, par des Indiens qui s'appelaient les Indiens derniers bois. Ils s'en servaient pour approcher les rennes. Donc est-ce que l'homme préhistorique au paléolithique supérieur s'en est servi effectivement pour approcher l'animal, puisque l'animal n'a pas peur de ce son et effectivement s'approche de la source sonore d'après les expérimentations qui ont été faites.
Et ce qu'on vient d'entendre qui est fait dans une phalange de rennes sifflante, ça a un trou, c'est un sifflet. On va entendre un autre sifflet maintenant qui a seulement une perforation lui aussi, c'est ça?
Voilà, alors l'autre sifflet, il a une fenêtre, une petite fenêtre en fait, avec un biseau, et il ressemble en fait à une flûte très courte, mais sans les trous de jeu. Et ce type de sifflets-là, ils sont fabriqués par les hommes de la préhistoire, à peu près même période, et ils sont en os, principalement en os d'oiseau. Alors, c'est généralement du rapace, aigle, vautour, mais ça peut être aussi des os de cygne qui vont être utilisés.
On va écouter ce que ça donne.
On a effectivement cette volonté d'imiter les sons qu'on entend dans la nature. On parle plutôt de sifflet à peau, même s'il permet aussi de la communication à longue distance et le repérage, par exemple, d'un groupe de chasseurs, sans doute à ces périodes.
Alors, on parle d'instruments qui ont une fonction qui est celle de la communication, qui est celle de la chasse, qui n'est pas encore celle qu'on pourrait attribuer à la musique.
Non. On va parler d'instruments plutôt musicaux, vraiment dans le sens du terme. À partir du moment où on a des flûtes avec des perforations, ce qu'on appelle des trous de jeu, qui permettent d'émettre différentes notes sur une, voire deux octaves.
Et c'est ce qu'on vient de trouver, en fait.
Oui, oui, c'est une flûte qui a été fabriquée dans un radius. Elle fait à peu près une vingtaine de centimètres de long, un radius de vautour fauve. Et donc, elle présente quatre, voire cinq trous de jeu. On dirait qu'il y a un des trous, comme c'est souvent le cas, qui a été fragmenté. Et elle ressemble aussi à ces flûtes nombreuses qu'on a trouvées dans la grotte d'Istüritz. Donc, il y a trois, voire quatre trous de jeu pour la plus complète.
Alors, on a reconstruit ce genre de flûte. On va écouter ce que ça donne quand on en joue. On a presque une gamme.
On a presque une gamme, effectivement. On peut reconstituer soit l'instrument, soit on fait des modélisations acoustiques pour avoir une idée de la tessiture de l'instrument, donc des notes qu'il pouvait émettre. Et on a effectivement une gamme. Alors la flûte qu'on a entendue, elle possède trois trous de jeu. Elle ressemble à celle qu'on a trouvée à Istüritz en une note vautour. La plus complète en possède quatre. Elle permet d'émettre neuf notes sur deux octaves. En fait, l'instrument servait probablement à émettre des sons de type organisé, hein, dans le sens qu'on l'entend pour la musique.
Voilà donc qu'avec des flûtes à plusieurs trous, on s'approche des instruments de musique. Mais est-ce qu'on parle d'art musical? Dans quel contexte en usaient les hommes préhistoriques? À quoi servaient vraiment ces instruments? En fait, à quoi servait la musique ultimement? Il faut encore se satisfaire d'hypothèses au sujet de la musique jusqu'à l'apparition des premières notations musicales, les premières partitions en Grèce, trois siècles seulement avant Jésus-Christ. Des questions que se posent les archéologues qui doivent toujours contextualiser chaque nouvel objet trouvé à nouveau. Tinaïque Clodorie Tissot.
La question la plus intéressante, c'est quelle était la fonction sociale de l'instrument, qui en jouait, à quelles occasions. Et pour répondre à ces questions, c'est le contexte archéologique qui peut nous donner des éléments de réponse. Par exemple, si la flûte a été trouvée dans une tombe, est-ce qu'elle a été jouée pour la cérémonie funéraire? Est-ce qu'elle est là parce qu'elle indique le statut social du défunt? Est-ce que le défunt lui-même était un joueur? Donc toutes ces questions auxquelles on n'a forcément pas de réponses, hein, pour des périodes sans écrit, mais qu'on peut imaginer. Et on fait également beaucoup de comparaisons ethnographiques pour tenter d'avoir des éléments de réponse. Donc comme on le verra par exemple pour le rombe, un autre instrument à vent, dont on ne sait pas à quoi il servait véritablement aux hommes préhistoriques.
On va écouter ce que ça donne. On ne sait pas encore à quoi il servait aux hommes de la préhistoire, mais on va écouter ce rombe. Alors là, on imagine quelqu'un qui tourne l'objet, le vent.
Effectivement, rentre, ouais. Un rhombe se présente sous une forme d'une plaquette très peu épaisse, en ivoire ou en bois de renne, avec une perforation dans laquelle on passe une cordelette que l'archéologue ne retrouve pas, puisqu'elle était sans doute en matière, en tendon, en boyau, en matière végétale ou même.
C'est décomposé, oui.
Donc ça se décompose. Ça fait partie de ces nombreuses matières qui ne laissent aucune trace archéologique. Alors, le rhombe, c'est un instrument de musique, un instrument sonore particulier, qui est utilisé dans une grande partie du monde, encore aujourd'hui. Il est, par exemple, chez les aborigènes d'Australie, un instrument qui est un instrument cultuel, un instrument sacré, qu'on utilise pour certaines cérémonies et dont le son évoque la voix des ancêtres. Ainsi aussi chez les Bororo, où il sert uniquement aux cérémonies d'initiation des jeunes garçons. Alors, ce qu'il était ainsi considéré par les hommes de la préhistoire, on n'a pas de réponse. On se rend compte aussi qu'il était utilisé dans un autre cadre, par exemple en Europe. En Europe, jusqu'au début du XXe siècle, on utilisait le rhombe parce que ça effrayait les loups, puisqu'il produit des infrasons qui les perturbent. Est-ce que c'était utilisé dans ce cas au temps de la préhistoire? On n'en sait rien. Le rhombe apparaît à peu près vers 24 000 avant Jésus-Christ. Et c'est un instrument dont on ne sait finalement pas à quoi il servait aux hommes préhistoriques.
Autre famille d'instruments dans cette tournée des instruments de musique préhistorique, les racleurs. On va écouter ce que c'est, ce que ça donne le son d'un racleur.
C'est l'unique instrument de percussion attesté avec certitude pour le paléolithique supérieur.
Alors, c'est une partition qui reste encore à peaufiner et à écrire que celle de l'histoire de la musique pendant la préhistoire.
Tout à fait. En fait, chaque nouvelle découverte vient enrichir le corpus des instruments de musique et on se rend compte que très tôt, l'homme était déjà homo musicalis aussi, un musicien et qu'il a inventé ses instruments. Mais effectivement, on est avec des périodes où les choses se conservent rarement, tout ce qui est organique. Et finalement qu'un petit pan de ce qui a existé, ce qui a pu exister. Quand on se rend compte que 80% des instruments de musique dans le monde sont fabriqués en matière végétale, c'est 80% de ce qu'on ne retrouverait pas aujourd'hui.
Mathinaïque Clodoré-Tissot, je vous remercie de ce tour des instruments préhistoriques.
Merci.
Je rappelle que vous êtes docteur en préhistoire dans l'équipe de recherche à la Maison de l'archéologie et de l'ethnologie de Nanterre en France.
Ici Lily Marin, journaliste au site Internet des Années Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière. Il est également en diffusion par satellite sur la chaîne Première Plus dès samedi 17h. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années Lumière.
Si vous êtes passé par l'Université de Montréal récemment, vous avez peut-être remarqué la présence d'étonnants locataires. Une famille de faucons pèlerins a élu domicile à l'endroit le plus élevé du campus, le pavillon Roger Gaudry. Et si vous n'avez pas vu les faucons, vous avez peut-être vu celle qui est devenue un peu leur maman, Gaëlle Lucia Berdoux, vous l'avez rencontrée.
Oui, elle s'appelle Eve Bellil, elle est associée de recherche à l'École Polytechnique. Et en 2007, elle a remarqué la présence d'un couple de faucons pèlerins sur le campus. Depuis ce jour, elle ne les a pas tellement quittés des yeux. Alors, on peut s'étonner de la présence de ces rapaces en pleine ville, mais c'est en fait de plus en plus fréquent. Alors, je suis allée suivre Eve Bellil à l'Université de Montréal pendant sa tournée matinale d'observation des faucons pèlerins.
Je vais vous montrer, madame. Oh! Elle est en train de sortir une boulette. Ça, c'est intéressant. Tiens. Les oiseaux de proie ont ce qu'on appelle des boulettes de régurgitation. Là. C'est parce qu'ils avalent les os, les plumes, tout ce qui n'est pas digérable dans le fond. Puis ils vont après ça, leur corps, leur système fait une petite boulette puis ils rejettent ça. Même chose pour les hiboux.
Depuis qu'elle les a aperçus de la fenêtre de son bureau il y a 2 ans, Eve Bellil s'est prise d'une véritable passion pour la famille de faucons pèlerins qui nichent sur la tour de l'Université de Montréal. Armée d'un télescope, elle arpente le campus pendant des heures pour épier leurs moindres mouvements. Elle leur a même installé un nichoir. Et cette année, le couple a eu 2 petits. Eve Bellil était aux premières loges.
J'avais mis le télescope, j'étais patentée une webcam qu'on connecte là-dessus. Fait que je pouvais travailler. J'avais dans le coin de mon écran toujours l'image du nichoir avec qu'est-ce qui se passait, s'il y en avait un qui rentrait puis qui sortait. Fait que si je voyais de l'action, ben là, j'avais mes jumelles toujours prêtes. Là, ils se promènent un peu partout, fait que c'est plus difficile. Sauf que pendant la nidification, c'était facile. Tout était centré sur le nichoir, donc j'avais juste à le pointer là puis je savais qu'est-ce qui se passait. Ah, je pense qu'elle va s'envoler. Oh, elle est belle.
Les faucons pèlerins sont de plus en plus nombreux à s'installer en milieu urbain, où ils trouvent une nourriture abondante et de beaux perchoirs artificiels, les gratte-ciels. De quoi attirer les ornithologues amateurs comme Eve Bellil.
Quand il y avait les parades amoureuses, le mâle amenait des offrandes de nourriture à la femelle. On voyait là, qu'il était vraiment soumis. Là. Il se penche toujours à la tête plus bas que la femelle. Puis il se fait des genres de, de salut à la femelle. Puis là, la femelle attrapait la nourriture là, vraiment d'un coup, puis « Ah ouais, donne-moi ça! » Puis lui, ben, il se sauvait après, comme il avait peur d'elle. Mais c'était tellement intéressant à regarder.
Et qu'est-ce qui vous fascine dans ces oiseaux-là?
Ben premièrement, c'est leur vol. C'est une machine de vol incroyable qui ferait l'envie de n'importe quel pilote, de n'importe quel avion, dans le fond. Là.
C'est l'animal le plus rapide du monde?
Exactement, c'est l'animal le plus rapide du monde. Ils font des piquets à plus de 300 km/h que j'ai déjà eu la chance de voir aux jumelles de loin, là, parce que pour faire ça, il faut qu'ils montent très haut dans le ciel. Puis là, ben, c'est leur technique d'attaque. Dans le fond, ils montent. Là, ils se ramassent... ils vont essayer de se mettre dans le soleil pour aveugler la proie. Puis ils descendent à des piquets incroyables. Ils frappent la proie avec leur pouce. Là, la proie est tout assommée, tombe, puis ils la rattrapent en vol.
C'est donc, ils chassent des oiseaux?
Oui.
Essentiellement?
Bien, juste des oiseaux, en fait. Ils vont pas attraper des petits mammifères. Bien, ceux dans le Grand Nord qui n'ont pas le choix, ils vont attraper des lemmings. Ils ont développé d'autres techniques de chasse. Ils vont chasser un peu comme un buzzard. Ils vont chasser au ras-le-sol et attraper les lemmings, les petites choses comme ça. Sauf qu'ici, c'est strictement des oiseaux qui mangent.
Donc, ils mangent les pigeons de Montréal?
Bien, entre autres. Pigeons, étourneaux, n'importe quoi qui vole. Oiseaux migrateurs. Mais juste les voir manœuvrer dans le vent, là, c'est tellement beau. Salut! Ça va?
Oui. Moi, je suis Jacques, collègue de travail de...
Ouais.
Bon, ils sont pas là ce matin?
Oh!
La présence des rapaces sur le campus suscite beaucoup de curiosité. FBLIL n'en finit plus de répéter leur histoire, toujours avec le même enthousiasme. Elle leur a même consacré un blog, où elle raconte, photo à l'appui, comment elle a secouru récemment un fauconneau tombé de sa tour.
On l'a cherché un matin, on la trouvait pas. Finalement, en suivant son frère, on l'a vu sur une butte de gazon. Ça frappe quand même, tu vois, un faucon pèlerin de même par terre. On est toujours habitué de les voir en l'air. Fait que là, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Là, je me suis approchée pour essayer de la secourir. Elle s'est envolée. Là, je me suis approchée d'elle tranquillement. Mais on savait pas exactement elle était où au début, mais il y a à peu près 8 corneilles qui se sont posées en haut de l'arbre où elle était puis qui se sont mis à louspiller, crier sans arrêt. Puis là, je l'ai ramassé. Puis je l'ai ramené au 10e étage avec son frère.
J'en vois un autre à droite, là. Je sais pas c'est qui est rendu là. Je vais regarder ça.
Ici, ça, c'est la volière de réhabilitation. Donc, les oiseaux qui sont soignés à la clinique des oiseaux de proie, quand ils sont stabilisés médicalement, ils viennent ici, c'est l'entraînement des oiseaux en volière. C'est comme des athlètes.
Le sauveteur par excellence, c'est le vétérinaire Guy Fitzgerald. Il a fondé la clinique de l'hôpital vétérinaire de Saint-Hyacinthe où on soigne des oiseaux de proie blessés. Près de 350 oiseaux passent par là chaque année, dont quelques faucons pèlerins.
Un faucon pèlerin, ça, c'est notre espèce un peu particulière pour l'entraînement. On ne peut pas vraiment prétendre entraîner un faucon pèlerin qui, eux, font de la chasse en haut vol, qui peuvent monter à 1000 pieds d'altitude. Ça, ici, c'est notre sentier qu'on appelle sentier des grandeurs. C'est les espèces de grands espaces. Ça, c'est notre arfand des neiges.
Après leur visite à l'hôpital, les oiseaux aboutissent ici, à l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie, sorte de maison de convalescence en plein air. Puis, ils sont relâchés dans la nature. Mais certains gardent le fort, trop blessés ou trop habitués aux humains pour retourner à la vie sauvage, au grand bonheur des visiteurs.
Bravo, c'est ça.
Et ici, c'est nos faucons pèlerins.
Donc, ce sont des oiseaux que vous ne pouvez pas remettre en liberté. Pourquoi?
C'est ça, les deux. La femelle est amputée de son aile. Elle avait eu une paralysie de l'aile, puis était vraiment son aile était tombante, puis elle marchait dessus. Fait qu'il a fallu amputer son aile. Elle avait aussi le bec qui était... On voit sur une photo le bec qui était cassé. Puis ça a guéri avec une déviation de mandibule. Mais elle s'adapte bien comme ça à la captivité. Et le mâle, ça, c'est intéressant. C'est un oiseau qui avait été trouvé à Sherbrooke. Pour une fracture de l'aile, on a soigné son aile, on l'a remis en liberté, on a mis une bague. Et 2 ans et demi plus tard, il a été retrouvé à Sherbrooke, mais avec une fracture de l'autre aile. Avec 2 ans et demi, ça nous prouve que l'oiseau a survécu, là, nos soins, tout ça, puis il s'est probablement même reproduit. Mais là, il y a eu un autre accident. Mais là, par contre, il a perdu le bout de son aile. Fait que là, il n'y avait plus rien à faire pour le sauver. Fait que là, c'est comme ça qu'il a formé le couple avec la femelle ici.
C'est une espèce, M. Fitzgerald, qui a été malmenée depuis une soixantaine d'années?
Oui, bien, en fait, il y a les premières choses qui ont nui à cette espèce-là, c'est l'emploi de pesticides. Puis en fait, on s'en est rendu compte un petit peu plus tard, là, avec le DDT, dans les années 60, c'est qu'il y avait un déclin de cette espèce-là. Puis finalement, ils ont pu faire le lien avec une augmentation de métabolites du DDT dans le tissu des faucons ou dans les œufs, puis comprendre que finalement, c'est ça qui avait eu un impact. L'oiseau va comme bioaccumuler le poison dans l'environnement par ses proies.
Et qu'est-ce que ça provoque?
Il y a différentes choses que ça a provoqué, entre autres l'amincissement de la coquille de l'œuf, fait que les œufs aboutissaient pas là, avec une éclosion là, normale. Quand la femelle s'assoyait pour couver, les œufs pouvaient casser, tout ça. Il y a eu des effets tératogènes aussi. Il y avait des oisillons qui naissaient avec des malformations.
Donc ces produits-là ont été interdits depuis. Est-ce que la population a repris? C'est encore une espèce menacée?
Oui, bien, la problématique, c'est que ça a été banni au Canada il y a plusieurs années. mais c'est un produit qui a continué d'être utilisé dans les pays en développement. Et les oiseaux sont migrateurs, fait que les oiseaux peuvent migrer dans l'Amérique centrale ou du sud, puis ils peuvent avoir encore ce produit-là, donc continuer d'accumuler. L'autre chose, c'est que le produit est persistant dans l'environnement pour la demi-vie du produit est une cinquantaine d'années. Fait que c'est pour ça que ça a eu un impact à long terme. Mais il y a eu des programmes de réintroduction du faucon pèlerin, puis la population est en croissance. Là. On pourrait même considérer la population saine là, dans les années là, actuelles. Là. Donc, il y a eu vraiment une augmentation de la population. Et là, on se retrouve avec des populations même en augmentation en milieu naturel, sur les falaises, tout ça, et en milieu urbain, là, sur les édifices, sur les structures anthropiques comme les ponts. Beaucoup de ponts qui sont occupés par des faucons pèlerins. Donc là, on va aller à la volière de réhabilitation.
Il y a quelques jours, deux jeunes faucons pèlerins ont atterri ici. Ce sont les petits, nés au printemps, d'un couple qui niche depuis des années sur la tour de la Bourse, en plein centre-ville de Montréal.
Dans le fond, ce qu'ils attirent dans les milieux urbains, c'est la disponibilité de nourriture, que ce soit des goélands ou les pigeons. Mais c'est sûr que dans les milieux urbains, il y a les fils électriques, il y a les fenêtres sur lesquelles ils peuvent se frapper, les structures anthropiques puis les voitures. Surtout les jeunes, lorsqu'ils s'envolent, dans la nature, s'il s'en va de la falaise, il y a des arbres où se percher, puis au pire, il est au pied de la falaise, mais il va pouvoir comme remonter puis aller se percher sur des branches. Si ça arrive en milieu urbain, bien, il se retrouve sur la rue beaucoup plus près des gens. Les gens le voient, puis ils peuvent essayer de l'attraper. Là, l'oiseau prend panique, puis là, bien, il peut se faire frapper par une voiture. Les risques sont vraiment multipliés là, en milieu urbain. Là. Nous autres, on va rentrer pour la capture. Les gants, on a plusieurs.
Pendant que les deux rescapés montréalais se remettent, un autre faucon, lui, est prêt à être relâché. Dans une grande volière, Guy Fitzgerald s'arme d'un filet et de quelques étudiants pour tenter de l'attraper. Ce n'est pas une mince affaire.
Prenez une perche au sol.
Après quelques tours de piste, l'oiseau est finalement immobilisé.
On va le peser. On dit juste de ne pas bouger le temps que je pèse.
Suit un examen médical complet.
On sent que c'est un peu plus gros sur le coude que normalement. Puis l'extension du poignet est très bonne. Fait que c'est au coude qu'il y a un déficit d'extension. Mais il a l'air d'être capable de compenser dans son vol.
Donc, il est prêt pour la relâche maintenant?
Oui. On va lui donner son congé. Tu peux nous écarter un petit peu, juste un petit peu pour le temps qu'on attrape l'oiseau. Est-ce que les enfants comptent avec nous? On va compter 1, 2, 3, go!
1, 2, 3, go!
Le vétérinaire Guy Fitzgerald qui rendait sa liberté à un jeune faucon pèlerin avec les visiteurs de l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie. On espère que le faucon pèlerin a bien poursuivi sa route. Gaël, si on veut visiter le centre, où est-ce qu'on se rend?
Alors, c'est à Saint-Jude, près de Saint-Hyacinthe. Les oiseaux sont présentés au public du mercredi au dimanche tout l'été. Et puis, le 18 juillet, pourquoi pas, l'astronome Pierre Chastenet va être sur place pour une présentation spéciale qui va combiner l'observation des étoiles, année internationale de l'astronomie oblige, avec celle des oiseaux. Et puis, il y a un autre centre similaire, le Centre d'interprétation des battures et de réhabilitation des oiseaux de Saint-Fulgence, près de Chicoutimi. Et puis, si vous voulez suivre les aventures de la famille de faucons du campus de l'Université de Montréal, vous pouvez vous rendre sur le blog d'Ève Bellil. Vous retrouverez l'adresse sur notre site Internet www.radio-canada.ca/lumière. Et puis, l'an prochain, il y aura peut-être même des caméras sur la tour du pavillon Roger Gaudreau. C'est l'ambition d'Ève Bellil. Ça se fait déjà à San Francisco où il y a un autre couple de faucons pèlerins qui nichent sur un gratte-ciel en plein centre-ville. L'adresse sera aussi sur notre site Internet si vous voulez regarder ça.
Et avec une caméra, ce sera plus facile pour elle de travailler que d'aller les voir toujours avec les jumelles.
Pour rester dans son bureau.
Merci Gaëlle.
Je vous en prie.
Vous
écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir en deuxième heure, Yannick Villedieu rencontre Richard Béliveau, biochimiste pour qui la prévention passe d'abord par l'alimentation pour des maladies comme le cancer et bien sûr l'obésité.
L'obésité n'est pas un problème esthétique. Le gras est un tissu vivant. Les adipocytes qui stockent les graisses sont vivants. Ils sont endocriniens. Ils sécrètent des facteurs de croissance. Ils sécrètent un milieu pro-inflammatoire qui est le dénominateur commun à toutes les maladies chroniques qui nous tuent.
C'est maintenant l'heure du facteur et voici la question qu'il nous a laissée en passant.
Oui, bonjour. Voici une question que je me pose depuis la tragédie du vol France-Brésil. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi on a trouvé le moyen d'aller sur la Lune, trouver la façon d'identifier un criminel à partir de l'analyse d'un cheveu trouvé sur le site d'un crime, découvrir et prendre en photo des galaxies à des années-lumière, faire des avions sans pilote, mais qu'on n'est pas capable de trouver une boîte noire dans l'océan? Y a-t-il quelqu'un qui a pensé à mettre un GPS dans ses boîtes? Merci. Sophie Rouleau, Ayerskiff.
Eh bien, on a effectivement beaucoup entendu parler des boîtes noires introuvables du vol Air France 447 qui s'est écrasé en mer au début du mois de juin. Les autorités françaises ont d'ailleurs annoncé qu'elles continueraient à les chercher jusqu'au 10 juillet. Et puis, il y a eu cet autre accident d'avion près des Comores cette semaine. Et les boîtes noires, dans ce cas-là, seront certainement utiles pour expliquer ce qui s'est passé. Bien, ces fameuses boîtes noires, qui ne sont pas noires d'ailleurs, mais plutôt oranges ou rouges, justement pour les retrouver plus facilement, bien, ces boîtes noires enregistrent à la fois ce qui se passe dans les principaux systèmes à bord de l'appareil et aussi les discussions qui ont lieu dans le cockpit. Donc, pour répondre à Mme Rouleau, Gaëlle Lucia Berdou a contacté Pierre Janiot, ancien président directeur général de l'IATA, l'Association internationale du transport aérien. M. Janiot a d'ailleurs travaillé il y a quelques décennies à l'élaboration des premières boîtes noires. Gaëlle lui a d'abord demandé pourquoi on n'a toujours pas retrouvé celle du vol Rio-Paris.
Alors, évidemment, elles émettent des signaux pendant une trentaine de jours. À l'heure actuelle, évidemment, on suppose le périmètre de recherche que les enquêteurs ont défini est assez vaste. Il a 16 000, je crois, kilomètres carrés. Et il y a des profondeurs de 3 000 mètres et plus. Le fond de l'océan est assez accidenté. Et puis ensuite, les sons qui sont émis par ces boîtes-là se propagent différemment dans l'eau qu'elles se propagent dans l'air. À moins des distances moins grandes, ça dépend aussi des courants, de température, de la salinité de l'eau, c'est très compliqué. Donc, il est difficile de retrouver ça, même avec les sous-marins. On essaye à l'heure actuelle, je crois qu'il est fort probable qu'on les retrouvera jamais.
Notre auditrice, M. Janiot, se demande, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement mettre un système GPS sur ces boîtes noires pour les retrouver plus facilement?
Alors, il faut savoir que le GPS, c'est pour se localiser soi-même. Le GPS, c'est d'interroger une constellation de satellites et qui nous permet d'identifier où nous sommes, nous. Maintenant, une fois qu'on a identifié nous où nous sommes, nous pouvons envoyer cette information-là à d'autres. Mais le GPS lui-même ne fournit pas l'information pour suivre la trace de l'appareil, par exemple. On ne suit pas la trace comme telle. On peut la communiquer, cette information-là, mais il faut la communiquer. Alors, en général, il y a une couverture radar évidemment, il n'y a pas de couverture radar sur les océans, mais une couverture radar dans beaucoup d'endroits terrestres. On peut suivre les appareils d'une région de contrôle aérien à une autre région de contrôle aérien par couverture radar. Évidemment, il n'y a pas de couverture radar sur les océans, et donc on perd à ce moment-là la trace de l'appareil pendant quelques temps. Et jusqu'à ce que l'autre radar l'aperçoive de l'autre côté de l'Atlantique. Pour poursuivre cet avion-là à la trace complètement, il faudrait qu'on puisse envoyer notre position périodiquement, ce qui pourrait très bien se faire. La technologie existe, ce serait un système additionnel de plus. Et évidemment, ça coûte toujours cher d'avoir des systèmes additionnels de plus.
En revanche, vous proposez d'utiliser les satellites, justement, peut-être pour remplacer les boîtes noires.
Oui, je pense qu'à l'heure actuelle, puisque la communication par satellite est maintenant de moins en moins coûteuse, Il est possible, et d'ailleurs il y a des développements qui se font à l'heure actuelle, ce que je disais, où en fait, au lieu de au moment d'une phase critique, on peut définir ce que ça veut dire, une phase critique, au lieu de chercher la boîte, on envoie automatiquement, on déclenche automatiquement un envoi de données de l'appareil vers un satellite qui nous renvoie cette information-là à Terre, et donc, avant même que l'appareil se soit écrasé, on aurait déjà toute l'information qui est normalement contenue dans une boîte noire.
Est-ce que c'est réaliste?
C'est absolument réaliste. Et d'ailleurs, c'est un essai à l'heure actuelle. Il y a une compagnie au Canada, une petite compagnie au Canada, qui est en train de développer ce truc-là, et c'est un essai.
Et est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de surcharger les satellites de communication qui auraient recevoir ces données?
Non, c'est parce qu'on n'envoie pas ça continuellement. On l'enverrait quand c'est requis d'être envoyé. C'est-à-dire que en temps normal, on enverrait très peu d'informations. On enverrait des informations seulement qu'il y ait des anomalies. Et on enverrait toute l'information uniquement lorsqu'il y a une phase critique rencontrée. Quoi.
Donc cette information serait reçue en temps réel et n'aurait plus besoin d'être enregistrée nulle part.
C'est ce que je suppose. C'est ce que je suggère. Oui, c'est ça.
Je vous remercie beaucoup, M. Janiot, pour ces explications.
C'est moi qui vous remercie.
Gaëlle Lucia Berdou interviewait Pierre Janiot, ancien président de l'IATA, l'Association internationale du transport aérien. Nous aimons recevoir vos questions de nature scientifique. On les attend par téléphone ou par courriel. Alors, pour nous joindre par téléphone, vous composez le 514-597-6166 si vous habitez la région de Montréal, le 1-800-752-9050 si vous êtes de l'extérieur. Par courriel, lumière@radio-canada.ca. Dans quelques instants, la chronique des années-lumière en rediffusion avec Yannick Villedieu.
Et maintenant, pour terminer cette première heure, la chronique des années-lumière avec cette semaine Rachel Légère, directrice du Biodôme de Montréal. Bonjour Rachel.
Bonjour Yannick.
Vous allez nous parler aujourd'hui non pas d'une belle histoire de nature, comme vous le faites souvent, mais d'un désastre écologique qui s'est produit en Floride, avec une histoire de vieux pneus. C'est pas beau.
Non, c'est pas une très belle histoire, mais on va voir peut-être que ça va bien se finir un jour.
Oui, oui.
À Fort Lauderdale, dans les années 72, il y a eu un projet de faire le plus grand récif artificiel avec des pneus. Ça a été un peu instauré par la compagnie Goodyear et le gouvernement américain. C'était dans le but d'offrir de la protection à des poissons et dans le but d'avoir des nouveaux sites de plongée pour pouvoir un peu libérer les récifs de corail naturels en Floride.
C'est moins beau, mais en tout cas, on pensait que ça pourrait faire quelque chose. Beaucoup de pneus ont été immergés.
On parle de 2 millions de pneus.
2
millions de pneus qui ont été attachés par groupe de 10-12 avec des cordes de nylon et des cordes de métal et tout
et
ça.
Et on a coulé tout ça.
On a coulé tout ça en 1972, il y a donc 33 ans.
Et qu'est-ce que ça a donné?
Pas longtemps après, vous savez, il y a eu beaucoup de tornades et d'ouragans sur les côtes de Floride.
Oui.
Et ces pneus, avec l'usure, avec les courants et tout ça, les attaches se sont cassées. Et les pneus se sont répandus sur à peu près 3 kilomètres. Et toutes les structures qui avaient été un peu montées pour faire des abris, mais tout s'est un peu couché sur le fond, un peu entassé dans le sable.
Mm-hmm.
Et donc, le récif, on n'en parle plus. Et ce qu'on a, c'est un fond de mer de pneus et
donc,
qui reste là.
Donc, quand on dit désastre écologique, on ne se trompe pas, on n'exagère pas.
On se trompe pas, il y a des pneus qui se sont retrouvés sur les plages, il y a des pneus qui se sont retrouvés dans les récifs naturels coralliens de Floride. Donc, ces pneus-là, avec les tempêtes, se promènent. Et là, on a décidé en 2007 de commencer à sortir tout ça.
À nettoyer ça. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est possible? C'est facile? C'est faisable?
C'est pas facile, c'est faisable, oui, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Là, même l'armée américaine s'est mise de la partie pour faire ses exercices de plongée sous-marine sur ces sites-là. En 2007, c'était vraiment une étude comment ils allaient faire pour remonter tout ça. C'est vraiment en 2008 que ça a commencé, mais on parle d'à peu près 20 000 pneus pneus par mois qui réussissent à monter. 20 000 pneus par mois, imaginez-vous le temps. On parle de 10 ans avant de sortir tout ça. La première évaluation, c'était en 2007 et 2010. On va se débarrasser de ce cauchemar.
Et là,
on va
ça
tout
va
sortir.
Prendre au moins 10 ans.
À moins qu'ils mettent vraiment beaucoup, beaucoup plus de ressources.
Donc, une catastrophe avec ce récif artificiel de vieux pneus. Mais des récifs artificiels, Rachel, ce n'est pas la première fois qu'on en fait. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée. C'est même une très, très vieille idée, d'ailleurs. Ça remonte à loin, les récifs artificiels.
Ça remonte à loin. Les premiers récifs, d'ailleurs, c'était les premiers naufrages de bateaux.
Oui.
On parle dans les années 1600, les Japonais se sont rendus compte qu'autour des épaves de bateaux, il y avait souvent plus de poissons à pêcher,
oui.
Plus de diversité. Donc, c'est après ça qu'ils ont commencé à dire, bon, on va couler d'autres, des vieux bateaux qui n'étaient pas utilisés. On ne parle pas de voitures, c'est sûr, en 1600, mais avec les années, il s'est construit toutes sortes de récifs artificiels, de toutes sortes de produits, parfois des voitures, même un avion, ça peut être des débris de construction.
Mm-hmm.
Donc, il y a différents récifs pour différentes utilisations aussi.
Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée, alors?
Non, parce que selon où est le récif et de la façon qu'il a été monté, ça peut devenir ce qu'on appelle un récif de production. Donc, les poissons vont s'y trouver des abris, vont pouvoir, les poissons, même les homards, ils vont pouvoir se cacher et mieux se protéger. Donc, ça, on appelle ça un récif de protection. Ça a quand même des architectures un peu montées et les algues, les anémones vont commencer à se coller là-dessus et ça va créer des nouveaux écosystèmes.
C'est ça, on crée donc un écosystème, si on peut dire, sur place.
C'est ça. Mm-hmm. On peut aussi créer ce qu'on appelle des récifs de protection. Ça, c'est pour empêcher les chalutiers de passer, parfois certains gros bateaux, pour protéger certaines zones de pêche plus artisanales. Donc là, les matériaux utilisés, ce n'est pas nécessairement pour avoir plus de poissons, mais c'est vraiment pour empêcher des prédateurs qui vont racler le fond, dont les chalutiers.
Oui.
Donc là, on parle de récifs de protection.
Et ça, ça marche aussi.
Et ça marche très bien.
Mm-hmm.
Dans le cas des pneus, on va parler plus de récifs paysager pour encourager la plongée sous-marine, pour
Quel
encourager...
Beau paysage, plonger au milieu des pneus!
Si ça fonctionne, ça peut être intéressant. Mais les pneus, on s'est rendu compte avec les années qu'il n'y a pas beaucoup de fonds de marine qui aiment ça, qui aiment venir s'agripper sur le caoutchouc. Donc, il n'y a plus de pays. Il y en a eu partout des récifs de pneus.
Il y en a eu beaucoup.
En Indonésie, il y en a eu en Malaisie. Et ça a été des catastrophes presque partout. C'est pas assez lourd, les pneus. Et les attaches finissent par se casser. Et ça s'étale sur le fond. Et même, ça commence à se promener, balloter et vraiment détruire la faune locale.
Donc, en conclusion, Rachel Légère, Les récifs artificiels, ça peut être une bonne idée, mais il faut que ce soit bien fait.
Bien fait, et ça peut soulager des récifs naturels en départageant finalement les plongeurs à différents endroits.
Rachel Légère, je vous remercie beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Et voilà, c'est tout pour la première heure des Années Lumière. Avant d'aller aux nouvelles, je vous donne un aperçu des sujets au menu de l'émission Découverte ce soir à 18h30 à la télévision de Radio-Canada. Il y sera question, entre autres, des fossiles. Oui, des fossiles qu'on peut voir dans les murs de certains immeubles de Montréal. D'ici là, restez des nôtres à la radio pour la suite des Années Lumière après le bulletin de nouvelles. Les années-lumière, deuxième heure.
Rebonjour, bienvenue aux Années Lumière. C'est toujours Sophie André Blondin qui vous parle. Au menu de cette deuxième heure, la rediffusion des confessions de Richard Béliveau, telles que ce biochimiste les a faites à notre animateur en vacances, Yannick Villedieu. Alimentation, cancer, obésité, la science et le bon sens alimentaire à la rescousse des grands mots modernes. Il y aura eu auparavant le petit journal de la science, bien sûr, mais tout d'abord, la série d'été des Années Lumière. Les stars des étoiles. L'année mondiale de l'astronomie bat toujours son plein en souvenir du 400e anniversaire des premières observations de Galilée avec sa lunette. Pour souligner cette année, nous vous présentons tout l'été une série de portraits d'autres grands astronomes qui ont façonné notre compréhension de l'univers. Cette semaine, place à un monument de l'astrophysique moderne, Subramanian Chandrasekhar, un des premiers à combiner la physique et l'astronomie. Chandra, comme on l'appelle plus simplement, est né en Inde en 1910. Après un séjour en Europe, il a finalement émigré aux États-Unis au milieu des années 30. C'était un chercheur prolifique, il a publié plus de 300 articles, il a dirigé le réputé Astrophysical Journal pendant plus de 20 ans et remporté aussi le prix Nobel de physique, c'était en 1983. Pour raconter la vie et l'œuvre de Chandrasekhar, Chantal Srivastava a convié en studio le physicien François Vesmael, qui est professeur à l'Université de Montréal.
Chandrasekhar, c'est un personnage d'exception à plusieurs titres. C'était un étudiant très très brillant quand il a fait ses études primaires et secondaires en Inde. Ensuite, il est allé dans les meilleurs lycées de la région où il habitait, la région de Madras. Et il était vraiment quelqu'un de très très précoce. Il a rencontré des grands physiciens qui visitaient Madras alors qu'il n'avait que 18 ans et 19 ans. Et il avait l'occasion donc de rencontrer ces physiciens qui venaient faire un tour aux Indes et de discuter avec eux du développement de la mécanique quantique et de ces sujets qui étaient vraiment à la frontière de la physique. Cette nature précoce de son intérêt pour les sciences va ensuite le mener à une carrière, à une brillante carrière. Mais la chose a commencé très très tôt. Il était issu d'une famille qui s'intéressait beaucoup à l'éducation. Il avait été éduqué en partie à la maison. Son père était un haut fonctionnaire du régime du gouvernement colonial. Son oncle était un prix Nobel de physique en 1930, donc alors que Chandrasekhar avait une vingtaine d'années. Donc c'est quelqu'un qui vraiment vivait dans un milieu culturellement très très avancé.
Il est né sous une bonne étoile, absolument, donc c'est le moins qu'on puisse dire. Et François Vesmael, c'est vraiment très très jeune qu'il a eu ce coup d'éclair de génie pour lequel on l'a récompensé plusieurs années plus tard avec le prix Nobel.
C'est une belle histoire. Et quand il a fini ses études en 1930, donc à l'âge de 20 ans, il a obtenu une bourse pour aller étudier en Angleterre. Il a décidé d'aller étudier avec Fowler, qui était un des grands physiciens qui s'intéressait à l'application de la mécanique quantique à l'astrophysique. C'était un des premiers à le faire. Et donc le voyage d'Inde en Angleterre est assez long et il a pris le bateau d'Inde jusqu'à Venise. Et l'histoire dit que c'est lors de ce voyage en bateau qu'il a développé ses idées sur la masse maximale des étoiles naines blanches.
Alors, c'est ce qu'on a appelé la limite de Chandrasekhar. De quoi parle-t-on exactement et en quoi ça a changé la façon de voir l'évolution des étoiles?
Oui. C'est une limite qui est basée sur un résultat de la mécanique quantique. Il faut, quand vous avez une étoile, il faut que le poids des couches de l'étoile puisse être supporté par une pression interne qui est associée à l'étoile. C'est le cas dans le Soleil, par exemple, où c'est tout simplement la pression gazeuse qui supporte le poids des couches. Dans les étoiles naines blanches, ça n'est plus la pression gazeuse habituelle associée aux atomes qui fournit le support, c'est la pression que l'on appelle pression de dégénérescence, qui est un effet purement quantique.
Et les naines blanches qui sont des étoiles en fin de vie,
c'est ça.
En voie vers le cadavre d'étoiles finalement.
Oui. Alors, toutes les étoiles vont finir leur vie d'une façon ou d'une autre quand leur carburant va être épuisé. On pense aujourd'hui que les étoiles dont la masse initialement est inférieure à 8 ou 9 fois la masse du Soleil vont finir leur vie comme sous la forme d'une étoile naine blanche. Alors le Soleil, qui a une masse de une masse solaire par définition, va finir sa vie sous la forme d'une étoile naine blanche. Les étoiles plus massives que 8 masses solaires vont finir leur vie sous la forme d'étoiles à neutrons ou de trous noirs. Alors la naine blanche est véritablement l'arrêt, le dernier arrêt, si vous voulez, dans la phase d'évolution d'une grande partie des étoiles de la galaxie, parce qu'il y a beaucoup plus d'étoiles de faible masse qu'il n'y en a d'étoiles massives. Alors, dans ces objets, les électrons ne sont plus attachés au noyau, donc les atomes sont séparés, si vous voulez, et les électrons constituent un gaz de particules libres. Et la mécanique quantique prédit que plus vous rendez ce gaz dense, plus vous compressez ce gaz, alors les électrons vont être obligés de se déplacer de plus en plus rapidement. Ça, c'est un effet qui n'existe pas en physique classique, qui est un effet quantique. Et si vous avez des électrons qui se déplacent très, très rapidement, alors il y a une pression qui est associée à ce mouvement des électrons, qui n'est pas relié à la chaleur, à la température. Il est relié à la densité. Et c'est cette pression, donc, dans les étoiles naines blanches qui supporte le poids des couches. Cependant, il y a une limite à cet effet-là, parce que les électrons ne peuvent pas se déplacer plus rapidement qu'une vitesse limite, qui est la vitesse de la lumière. Alors ça veut dire qu'il y a une masse maximale pour une étoile naine blanche, au-delà de laquelle la pression de dégénérescence des électrons n'arrivera plus à supporter le poids des couches. Alors c'est l'origine de la limite de Chandrasekhar.
Et c'est ce qu'il a découvert, donc, par un formalisme mathématique tout d'abord.
C'est ça.
Comment on a accueilli ça à l'époque? Ça a créé toute une controverse?
Alors, ce résultat date de 1930. Chandrasekhar allait faire ses études de cycle supérieur en Angleterre. Alors il a publié ce résultat relativement rapidement. Il se trouve que le résultat avait été obtenu par d'autres avant lui. Mais je pense que ce qu'on doit à Chandrasekhar, c'est vraiment de comprendre l'importance que ce résultat-là avait pour, je dirais, l'évolution des étoiles. La structure des étoiles, les aspects physiques de la structure des étoiles sont intimement reliés à l'évolution, c'est-à-dire les changements qui sont associés au fait qu'une étoile va vieillir. Et il est vraiment le premier à avoir entrevu les implications de ce résultat, je dirais, de nature structurelle pour l'évolution des étoiles. Alors c'est un résultat qui a été accepté de façon assez variable. En fait, il y a eu beaucoup de problèmes et il y a un grand débat qui a opposé Chandrasekhar à Eddington, qui était un des grands astrophysiciens qui était à l'université Cambridge, où Chandrasekhar est allé faire son doctorat. En 1935, il y a eu un conflit entre les deux, associé à l'existence de cette limite de Chandrasekhar, donc masse maximale pour une étoile naine blanche. D'une part, d'un côté, on avait Chandrasekhar qui croyait en l'existence de cette limite parce qu'il pensait avoir décrit le comportement relativiste du gaz d'électrons correctement. De l'autre côté, Eddington ne croyait pas à l'existence de cette limite et avait sa propre façon de décrire physiquement le comportement du gaz à l'intérieur des étoiles.
Et ce qu'il faut dire, François Vesmael, c'est que Sir Arthur Eddington avait beaucoup plus de poids à l'époque que Chandrasekhar.
Il était plus âgé, c'était le plus grand astrophysicien de sa génération. Chandrasekhar avait 25 ans. À l'époque, Eddington en avait presque le double, en avait 48. C'était un astrophysicien de renom. Et il faut bien avouer que dans ce débat, il a eu tendance à traiter Chandrasekhar de façon un petit peu méprisante. Mais c'était un peu son style.
Et c'était l'époque aussi. Hein. L'Inde était toujours sous le joug des Britanniques, était donc une de leurs colonies. Alors ce petit savant venu de la colonie éloignée, avait-il tant que ça à apprendre au grand maître?
C'est toujours un ingrédient du débat. On l'a vu précédemment avec le cas de Ramanujan, qui était un mathématicien de renom, qui a fait une carrière très très brève mais étincelante en Angleterre auprès des maîtres des mathématiques qui à cette époque-là étaient en Angleterre. Alors il y a toujours cet aspect de puissance coloniale et colonie qui doit être considéré dans ce genre d'études. Les Indiens qui venaient en Angleterre à cette époque-là avaient certainement envie de montrer qu'ils étaient capables d'être les égaux des Anglais dans les domaines scientifiques. Au-delà de ça, même quand il est arrivé aux États-Unis en 1937, le fait qu'il ait une couleur de peau qui soit un petit peu différente lui a aussi joué des tours et il y a eu une tendance à le regarder un peu différemment.
Alors, par la suite, Chandrasekhar a quitté la Grande-Bretagne, l'Europe, pour aller s'installer à Chicago, à l'Université de Chicago, aux États-Unis. Et là, quelque chose d'intéressant s'est produit. Il a varié ses champs d'intérêt. Il laissait sa marque, il laissait sa trace, écrivait des monographies, élaborait donc sur l'évolution des naines blanches. Et par la suite, il changeait tout à fait de champ d'étude. Pourquoi? Est-ce qu'on a la moindre idée?
Il est tentant de dire que le style de travail de Chandrasekhar a été, d'une certaine façon, modelé par ce premier échec face à Eddington. Chandrasekhar, en 1939, a décidé qu'il ne voulait plus toucher à ce sujet-là, a écrit un livre pour clore ce chapitre de sa vie et passer à autre chose, pour éviter ce débat incessant avec Eddington. Et on voit dans la carrière de Chandrasekhar la répétition de cette approche à la science. De façon répétée, il a écrit 7 livres sur 7 décennies, et chaque livre représentait véritablement la synthèse du travail qu'il avait accompli dans les années qui avaient précédé, la dizaine d'années qui avaient précédé. Il avait évidemment publié une série d'articles, mais il finissait toujours par un livre, et ensuite il passait à un autre sujet. Alors il a laissé sa marque dans un grand nombre de domaines de l'astrophysique moderne, la structure stellaire, les atmosphères stellaires, les problèmes associés au trou noir, à l'utilisation de la relativité générale dans la structure des étoiles, etc., etc.
Avec le recul, François Vazenel, qu'est-ce qu'on peut dire de l'impact qu'a eu cet établissement de la limite de Chandrasekhar sur les travaux subséquents qui ont été faits en astrophysique?
Je pense que c'est un résultat qui nous a permis d'y voir clair. C'est-à-dire, encore une fois, ce lien entre la structure et l'évolution, ça nous a permis vraiment de se poser la question... Que font les étoiles quand leurs réserves nucléaires, donc le carburant qui limite la vie des étoiles, quand ce carburant-là n'est plus disponible? Et donc c'est ce genre de question que la limite de Chandrasekhar nous a permis de répondre, parce que l'affirmation de Chandrasekhar, c'est que les étoiles massives ne peuvent pas vieillir de la même façon que les étoiles peu massives. Alors ça, c'est déjà un ingrédient important.
Et on ne convenait pas de ça avant lui. Toutes les étoiles étaient similaires.
C'était tout à fait inconnu. Il y avait un chemin évolutif pour les étoiles qui commençait comme étant des objets très diffus qui se contractaient et ensuite refroidissaient de façon assez paisible. Alors on n'avait pas cette vision très très complexe d'une série de mécanismes qui sont véritablement guidés, qui sont contrôlés par la masse de l'étoile. Aujourd'hui, on parle de naines blanches, d'étoiles à neutrons, de trous noirs. Ce sont chaque fois des stades évolutifs qui sont ouverts à une certaine fenêtre, si vous voulez, de masse. Les étoiles moins massives deviennent des naines blanches, les étoiles plus massives deviennent des trous noirs. On n'avait pas du tout compris ça à cette époque-là. Alors c'est vraiment la première fois qu'on a une vision de l'évolution stellaire et comment l'évolution stellaire peut être liée à la masse.
Et donc ça a été tellement marquant que c'est un peu pour ça qu'on lui a donné le prix Nobel
en 1983. C'est un résultat qui mérite tout à fait le prix Nobel. On peut évidemment s'interroger pourquoi, le résultat ayant été obtenu en 1930, le prix Nobel a été décerné en 1983. Mais je ne pense pas que Eddington soit un facteur dans cette décision-là. C'est tout simplement la façon dont le comité Nobel fonctionne. Il y avait eu un seul prix Nobel en astrophysique avant Chandrasekhar. Alors l'astrophysique n'était pas vue comme une branche, je dirais, nobelisable ou légitime de la physique, et ça n'est que sur le tard qu'elle l'est devenue.
Qu'est-ce qu'on a pu faire concrètement de marquant, qui a marqué l'astrophysique en marchant dans les traces de Chandrasekhar depuis? Tout ou presque?
C'est un ténor de l'astrophysique contemporaine. Alors quand on regarde les gens qui ont marqué le développement de l'astrophysique au XXe siècle, Chandrasekhar est là par la profondeur de sa recherche et la variété de sa recherche, le fait qu'il ait touché à beaucoup de domaines. Je parlais de 7 livres écrits précédemment, mais ce sont chaque fois des domaines où Chandrasekhar a utilisé un formalisme mathématique rigoureux pour étudier un problème de physique qui était important dans un cadre astronomique. Alors vous voyez qu'il y a cette fusion des trois disciplines, finalement mathématiques, physiques et astronomiques, et c'est une forme de recherche qui a porté fruit. Aujourd'hui, évidemment, beaucoup de ces calculs-là, les calculs comme ceux que Chandrasekhar a fait, sont faits avec des ordinateurs et tout ça, mais il faut penser qu'à l'époque, dans les années 1930, tout ce qu'on avait, c'était des petits machins pour calculer à la main, et c'était très 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 compliqué et très 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 long. C'était le seul genre de calculatrice auquel on avait accès. Alors, il a développé donc des techniques analytiques qui ont ensuite beaucoup servi au développement de toute l'astrophysique. Je pense que l'étendue de ses intérêts est une des caractéristiques les plus frappantes de sa carrière.
Mais je vous remercie infiniment, François Besmael, d'avoir pris le temps de venir nous raconter la vie et l'œuvre de Subramanian Chandrasekhar. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Si vous voulez plus de détails sur la vie de Subramanian Chandrasekhar, vous les trouverez dans le livre intitulé « Sous l'empire des étoiles, amitié, obsession et trahison dans la quête des trous noirs ». C'est un livre d'Arthur I. Miller aux éditions Jean-Claude Lattès. La semaine prochaine, Gaëlle Lucia Berdou nous présentera un reportage dans lequel Roger Hahn nous racontera la contribution de Pierre-Simon Laplace, un grand mathématicien et astronome français du 18e siècle.
Des chercheurs américains croient avoir compris pourquoi le virus de la grippe A H1N1 se transmet moins facilement d'une personne à l'autre que la grippe ordinaire. Son handicap est génétique. Les protéines à la surface du virus se lient moins efficacement aux récepteurs des cellules des voies respiratoires. Les scientifiques des Centers for Disease Control et du Massachusetts Institute of Technology ont aussi infecté des furets avec la grippe A H1N1. Ils ont constaté que le virus se répandait facilement quand les animaux étaient en contact direct les uns avec les autres, mais beaucoup moins quand ils étaient plus éloignés et que le pathogène était transporté dans l'air par les sécrétions respiratoires. Dans un article publié dans Science, les chercheurs concluent que ce schéma correspond à la façon dont le virus s'est propagé chez l'humain jusqu'à maintenant. Mais il rappelle que l'une des facultés du virus de la grippe, c'est de changer rapidement. À ce jour, l'Organisation mondiale de la santé rapporte près de 400 décès dus à la grippe AH1N1 et près de 90 000 personnes infectées.
Il y a les trous noirs de masse stellaire et les trous noirs supermassifs. Mais maintenant, on a peut-être trouvé un trou noir intermédiaire qui représenterait une sorte de chaînon manquant. Les astrophysiciens connaissaient déjà les trous noirs supermassifs qui se trouvent au centre de la plupart des galaxies et qui peuvent atteindre plusieurs milliards de masses solaires. Ils connaissaient aussi les trous noirs plus modestes de 3 à 20 masses solaires qui sont les restes de la mort d'étoiles massives. Mais l'équipe du Centre d'études spatiales des rayonnements en France estime avoir détecté pour la première fois un trou noir de masse intermédiaire. L'agglomération des trous noirs intermédiaires pourrait être à l'origine des trous noirs supermassifs. Le nouveau trou noir, décrit dans la dernière édition de la revue Nature, porte le nom de HLX1. Il fait plus de 500 fois la masse du Soleil et il est situé à 290 millions d'années-lumière de nous. Il est 260 millions de fois plus lumineux que notre Soleil.
km/h. C'est le nouveau record de vitesse établi par des étudiants de l'École de technologie supérieure de Montréal à bord du sous-marin Homer 7, un engin biplace sans hélice propulsé par des humains qui pédalent. Cet exploit a permis à l'ETS de se classer en 3e position lors de la 10e compétition internationale de sous-marins qui s'est tenue tout récemment au Maryland. Et même que le petit frère d'Homer 7, baptisé Homer 6, a lui aussi raflé les honneurs en établissant un nouveau record dans la catégorie monoplace sans hélice avec la vitesse de 9,1 km à l'heure. À noter qu'une autre épreuve digne de mention attend Homer 6 en septembre prochain. Dans le cadre de l'expédition Life Amphibious, le biologiste australien Lloyd Godson prendra place à bord d'Homer 6 pour franchir sous l'eau la distance de 300 km au large de la Grèce. Un clin d'œil au capitaine Nemo de Jules Verne et à l'Odyssée d'Homère afin de promouvoir la cause environnementale.
Le biochimiste Richard Béliveau de l'Université du Québec à Montréal est de plus en plus connu et reconnu comme chantre des vertus d'une saine alimentation pour prévenir des maladies comme les cancers, l'obésité, le diabète. Auteur, chercheur, conférencier, il s'est confié à notre animateur Yannick Villedieu. Voici donc en rappel cette grande entrevue.
Je reçois maintenant en grande entrevue un chercheur qui n'a presque plus besoin de présentation, tant son nom est associé aux vertus préventives d'une saine alimentation, plus précisément d'une alimentation riche en légumes et en fruits. Ce chercheur, c'est le biochimiste Richard Béliveau de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour Richard Béliveau.
Bonjour.
Alors également titulaire de chaire de recherche à l'UQAM, donc votre université à l'Université de Montréal, associé à McGill, à l'Hôpital Général Juif, conférencier, auteur de plusieurs livres de vulgarisation, dont « Les aliments contre le cancer », on s'en rappelle, il y a quelques années. Puis le tout dernier sorti, « La santé par le plaisir de bien manger ». Bref, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'activités. C'est pas toujours bon pour la santé, ça, Richard Béliveau, non?
Je suis avant tout un chercheur. Hein?
Oui, oui.
La recherche est fascinante, donc ça nous alimente.
Oui. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous fait courir comme ça, Richard Béliveau?
Le besoin de changer la société dans laquelle je vis, quand on pense que 90% du diabète de type 2, 80% des maladies cardiovasculaires, 70% des cancers et 70% des accidents vasculaires cérébraux pourraient être prévenus avec de petits changements très simples dans notre mode de vie. C'est un peu un non-sens qu'on ne change pas notre mode de vie. Alors, je pense que c'est ça la motivation principale. Si on sauve une seule vie, comme les Chinois ou comme c'est dit dans toutes les religions, le disent de façon unanime, on sauve son âme. Alors, je cherche peut-être à sauver mon âme en sauvant une vie quelque part.
Parce que il y a un état d'alerte, enfin, c'est pas nouveau, mais épidémie de maladies cardiovasculaires, de cancer, de maladies dégénératives, d'obésité, de diabète. Le portrait de santé de la population mondiale, c'est pas jojo.
Affreux. L'Organisation mondiale de la santé parle d'une épidémie d'obésité. On parle de diabésité, parce que 80% du diabète est associé à l'obésité.
Très, très lié, oui.
C'est très, très lié. Écoutez, le taux d'embonpoint obésité au Mexique en 1989, 10%. En 2005, 60%. Le diabète de type 2 a augmenté de 700% pendant la même période au Mexique.
Il y a des chiffres presque incroyables. C'est,
dans l'histoire de l'humanité, on est mort des maladies infectieuses jusqu'au début du 20e siècle. On est mort de la variole, on est mort de la tuberculose, on est mort des épidémies de peste et d'autres infections à travers l'histoire de l'humanité. Depuis le début du 20e siècle, la médecine a fait des progrès remarquables en hygiène, en vaccins, en antibiotiques, en techniques chirurgicales et on a augmenté...
Et ça s'est traduit par l'espérance de vie qui a augmenté.
L'espérance de vie qui a augmenté de façon draconienne. Et à la même période, on a développé une industrie agroalimentaire. Un secteur de l'industrie agroalimentaire a développé des produits très riches en gras, en sucre, en sel, très pauvres en principe nutritif. Et on a créé, c'est récent l'épidémie d'obésité, ça date de la fin début des années 80.
Très rapide. Hein,
en 10-15 ans, on voit des effets catastrophiques à l'échelle mondiale. L'obésité n'est pas un problème esthétique. Le gras est un tissu vivant. Les adipocytes qui stockent les graisses sont vivants, ils sont endocriniens, ils sécrètent des facteurs de croissance, ils sécrètent un milieu pro-inflammatoire qui est le dénominateur commun à toutes les maladies chroniques qui nous tuent. 80% de ce qui nous tue comme Nord-Américains, ce sont les maladies cardiovasculaires, cancer, le diabète de type 2, les accidents vasculaires cérébraux, l'Alzheimer, ainsi de suite.
Et vous parlez et on peut prévenir. Oui, et vous parlez d'une mondialisation des maladies chroniques parce qu'effectivement, on exporte, entre guillemets, le modèle. Hein?
Tout à fait. Les gens pensent que ce n'est qu'en Amérique du Nord, c'est faux. Les pays qui n'avaient jamais connu dans bon point d'obésité comme la Chine, le Japon, l'Arabie saoudite.
Ça flambe pareil.
C'est des flambées hallucinantes à l'échelle. L'obésité pédiatrique est une des pires.
Et vous venez de le dire, Richard Béliveau, vous venez de l'évoquer, c'est l'alimentation industrielle qui est en cause. Trop grasse, trop sucrée, beaucoup de calories vides, pas beaucoup d'aliments d'origine végétale. C'est vraiment une catastrophe, cette alimentation-là.
C'est une catastrophe. Malheureusement, elle gagne du terrain. Elle n'en perd pas. Elle gagne du terrain à l'échelle mondiale parce que l'image de l'Amérique dans beaucoup de pays en voie de développement, c'est une image de modernisme. Et malheureusement, la première chose qui est importée dans ces pays-là, c'est la malbouffe. Et souvent, les gens quittent leur alimentation qui traditionnellement était excellente pour se tourner vers... C'est le cas du Mexique dont on vient de donner les chiffres. C'est le cas des autres pays en voie de développement.
Qu'est-ce qui est si mauvais dans cette alimentation-là? Est-ce que scientifiquement, on sait bien ce qu'il y a de pas bon là-dedans?
Tout à fait. Je pense qu'il y a deux grands principe sites qui sont problématiques avec l'alimentation industrielle ou la malbouffe, c'est le principe que vous avez mentionné des calories vides. Donc, oui. C'est des aliments très riches, avec une densité calorique très élevée, ce qui fait que dans quelques bouchées, on prend une boisson gazeuse, je vois des gens boire ça sur la rue, une boisson gazeuse, c'est 5 km de marche que vous devez réaliser
c'est
pour
beaucoup,
brûler
beaucoup, beaucoup.
5 km, c'est une heure de marche. Donc, mm-hmm. les gens ne font pas ça. En même temps qu'on s'est sédentarisé, on a eu accès à cette malbouffe-là et c'est la rupture de l'équilibre en ce que nous consommons de calories et ce que nous brûlons de calories qui fait qu'on assiste à une épidémie
d'obésité. Tout simplement, oui.
Donc, c'est très simple. C'est de la biochimie 101, c'est du métabolisme 101. Si on engraisse individuellement, c'est parce qu'on consomme plus de calories qu'on en brûle. Et là, on est inégaux entre nous, mm-hmm. les êtres humains. C'est ce qu'on explique dans notre livre. Il y a des gènes d'obésité, il y a des gènes de stockage de graisse qui sont plus accentués chez certaines personnes, il y a des gènes
c'est
de
sûr,
satiété,
sûr,
il y a
oui.
des gènes de réponse à la satiété, il y a des gènes d'appétit qui sont différents, ce qui fait qu'il y a des gens qui engraissent plus facilement. L'autre volet associé à la malbouffe, c'est qu'elle est carencée en légumes et en fruits.
Ouais. Et ça, c'est mauvais, ça.
Ça, c'est mauvais parce que là, en plus de la surcharge calorique qui entraîne l'épidémie d'obésité, on a une carence nutritionnelle en molécules phytochimiques. Les plantes se défendent chimiquement de leurs agresseurs en produisant des millions, pas des milliers, des millions de molécules de défense.
Différentes, oui.
Fongicides, insecticides, pesticides. Parce
qu'une plante, ça ne se sauve pas.
Ça ne sauve pas et ça ne se bat pas. On appelle ça le fight or flight, le combat-fuite pour les animaux. Les plantes se défendent chimiquement et dans ces millions de molécules-là, on estime, en recherche médicale, qu'il y en a entre 20 000 et 30 000 qui ont un impact direct sur notre métabolisme, sur notre physiologie, qui jouent sur des enzymes spécifiques pour empêcher le développement des maladies chroniques. Comme on n'en retrouve pas dans l'alimentation industrielle, dans la malbouffe, c'est l'autre aspect négatif de l'alimentation industrielle.
Trop de calories, donc ça c'est mauvais au point de vue physiologique, bien sûr, et pas assez de bonnes choses.
C'est ça, on est en carence, et là, c'est là qu'on compense avec des suppléments de vitamines puis des choses comme ça. Et là, en fait, les suppléments de vitamines valident dans les populations nord-américaines leurs mauvaises habitudes alimentaires.
Vous n'êtes pas trop chaud sur les...
Le Fonds mondial de recherche sur le cancer, une des recommandations, c'est n'utilisez pas de suppléments pour combattre
incroyable.
Le cancer.
On y viendra tout à l'heure à ce Fonds mondial.
C'est ce qu'on avait mis dans notre premier volume. On avait le titre de notre
chapitre,
c'était
les, le cancer,
oui, c'était les suppléments des problèmes supplémentaires parce qu'on a une pensée réductionniste en Amérique du Nord en pensant qu'on peut se priver de légumes. Remplacer une orange par de la vitamine C, c'est faux. 90% du pouvoir antioxydant de l'orange, c'est ailleurs que dans la vitamine C.
On va venir, Richard Béliveau, à la question du cancer. C'est vraiment votre domaine de travail, d'étude. On associe votre nom, Richard Béliveau, beaucoup aux vertus du thé vert, du chocolat noir, des petits fruits. Ça fait un petit peu médecine douce. Mais
ça ne l'est pas du tout.
Mais il y a de la science. Il y a de la science dure derrière.
C'est uniquement de la science.
Qu'est-ce que vous
moi,
faites?
Moi, je suis un chercheur, je suis un biochimiste de formation. Oui. Ma vie, c'est de travailler en chimiothérapie du cancer. On a développé des médicaments de chimiothérapie dans notre laboratoire. On est en essai clinique aux États-Unis, à Houston, pour le traitement des glioblastomes avec un dérivé du taxol.
Ça fait pas médecine douce.
Là, on n'est pas des médecines douces du tout. Nous, ce qu'on cherche, c'est des molécules, qu'elles soient d'origine synthétique ou d'origine biologique, d'origine végétale, pour attaquer des cibles pharmacologiques associées au développement des tumeurs. Ces cibles-là sont étudiées, c'est ce qu'on fait en recherche. On essaie d'étudier, lorsqu'on veut attaquer, d'un point de vue militaire, un endroit, qu'est-ce qu'on fait? On prend des photos aériennes, on prend des photos satellites, on envoie des espions, on envoie des forces spéciales. Mm-hmm. On identifie les cibles à attaquer, des tours de communication, des parcs de blindés. On identifie ça, c'est ça qu'on fait en recherche. Identifier dans le cancer quelles cibles on doit attaquer. Et une fois qu'on a attaqué ça, ben là, on cherche des molécules qui permettent d'attaquer ces cibles-là. Mm-hmm. Nous, on le fait à la fois avec des molécules d'origine pharmaceutique et avec des molécules qui proviennent, comme le font des milliers de laboratoires sur la planète, des molécules qui sont produites par des enzymes qu'on trouve dans les cellules végétales. Et ces molécules-là
Des molécules naturelles. Là, ouais.
Des molécules naturelles, mais des molécules naturelles peuvent être inefficaces. C'est pas le fait qu'elles soient naturelles qu'elles
sont
efficaces. C'est le fait qu'elles aient un profil d'action pharmacologique semblable à celui des médicaments qu'on développe.
Alors, donc ça, c'est votre travail sur vraiment le traitement du cancer.
On est sur le traitement à 100%. Je pense que là, il faut distinguer traitement et prévention. C'est deux choses distinctes.
Et quand on parle de prévention, parce qu'on va parler de prévention maintenant, ce que vous dites, c'est que toutes ces molécules, notamment phytochimiques, donc produites naturellement par les plantes, les milliers de molécules produites par les plantes, peuvent avoir un effet préventif sur le cancer, c'est-à-dire en attaquant le cancer avant qu'il existe ou avant qu'il existe vraiment. C'est ça un peu la ligne de fond.
La ligne de fond, c'est que l'être humain forme spontanément des tumeurs. On a pu
constamment.
Constamment, les chercheurs ont calculé qu'un corps humain produit, parce que vous produisez à l'heure, vous renouvelez votre moelle osseuse, des milliards de globules blancs à l'heure. Même avec un taux de mutation très faible, il a été calculé qu'un corps humain produit en moyenne 1 million de cellules mutées par jour. Donc, tous les êtres humains, les études l'ont montré, en haut de 40 ans, sont porteurs de tumeurs. Ces tumeurs-là sont dormantes et c'est notre mode de vie qui permet ou ne permet pas à cette prédisposition-là héréditaire d'exprimer son potentiel. On est porteur de tumeurs. Le cancer est une maladie chronique, comme le sont les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension et les autres maladies. Mm-hmm. Il faut arrêter de voir le cancer comme une apparition subite à 50 ans associée à un stress pointu ou quelque chose comme ça. Le cancer a pris des décennies à se développer. On le sait pour tous les cancers maintenant, pour le 90% des cancers. C'est des décennies de développement associées à l'éclosion du cancer. Vous mangez, vous créez une guérilla quotidienne en consommant des molécules qui ont une action anticancéreuse, qui attaquent directement les cellules cancéreuses ou qui bloquent l'inflammation. Il y a des molécules qui sont anti-inflammatoires dans la curcumine, dans le gingembre. Il y a des molécules qui ont une action anti-angiogénique qui bloquent les vaisseaux sanguins associés au développement de ces micro-tumeurs-là. Et c'est comme ça que la prévention agit.
Et ça fait plaisir à l'esprit, mais est-ce qu'au point de vue physiologique, je reviens à ça, au point de vue vraiment fin, physiologie fine, on comprend ce qui se passe, mis le doigt sur des molécules
les cibles sont clairement identifiées. La curcumine est un bloqueur du facteur de transcription NF-kappa-B, qui est le facteur de transcription associé à la production de la cyclooxygénase de type 2, qui est l'enzyme impliquée dans l'inflammation. Lorsque vous prenez un anti-inflammatoire, vous prenez un inhibiteur des COX-2. Lorsque vous prenez du Celebrex, c'est un inhibiteur des COX-2 que vous prenez. Bien, vous retrouvez dans le curcuma et dans le gingembre, deux molécules, le gingérol et la curcumine, qui bloquent vraiment l'action de ce facteur-là.
Mais s'il faut en manger...
ça empêche l'inflammation.
Une chaudière
les données,
par jour,
ça aussi, c'est un mythe.
Oui, ça aussi, parce qu'on
les études l'ont montré clairement, pharmacologiquement, on a pu mesurer en pharmacocinétique la biodisponibilité de ces molécules-là et une consommation modérée qu'on retrouve dans l'alimentation. Une tasse de thé vert, par exemple, dans le sang, vous donne une concentration plasmatique d'à peu près 0,5 micromolaires d'épigallocatéchine galate de polyphénol.
Puis ça, c'est bon, ça.
Et ça, c'est à peu près 4 fois la dose de ce qui est nécessaire pour inhiber l'activation des récepteurs hormonaux associés à la prolifération tumorale. Ça, ça a été mesuré des grandes études.
Et des exemples comme ça, est-ce qu'on en a beaucoup ou c'est 2 ou 3 exemples?
Non,
on a trouvé le thé vert, ça fait plaisir.
Non, il y en a des milliers. Le chou, les petits fruits, la famille de l'ail, c'est des milliers d'études. La curcumine est tellement puissante qu'elle est en essai clinique dans 12 d'études sur la planète pour traiter le cancer. Traiter, pas prévenir, traiter. On traite des gens, pas dans des petits centres. Au MD Anderson, à des grands centres d'oncologie de la planète, on traite des patients avec le cancer du côlon, avec le myélome multiple, avec certains leucémies, avec de la curcumine, pour vous donner une idée du potentiel thérapeutique de ces molécules-là.
Mais ça veut pas dire qu'on va guérir le cancer avec du bok choy et des bleuets, là,
on n'a jamais dit ça. On prévient le cancer avec l'alimentation. On traite le cancer en chirurgie. Moi, j'ai une la chaire Claude Bertrand de neurochirurgie. On n'a jamais dit qu'on traitait le cancer avec les aliments. On prévient le cancer avec notre mode de vie et on traite le cancer par chirurgie, par radiothérapie, par chimiothérapie.
Si on revient à la prévention du cancer par les aliments, par l'alimentation, c'était l'objet de votre premier livre que vous avez fait avec votre collègue Denis Gingras il y a déjà quelques années. Quand on regarde ça, on se dit, les données là sont scientifiquement solides dans beaucoup de domaines pour beaucoup de cancers. Avec l'alimentation, on pourrait avoir des gains de prévention sensibles.
Écoutez, c'est plus que le Fonds mondial de la recherche sur le cancer, qui est le plus grand organisme de lutte au cancer au monde, a publié son rapport la semaine dernière. On estime que 35% de tous les cancers peuvent être prévenus par le changement de notre mode de vie. C'est autant que le tabac, ça. Donc, les gens ont peur, vous savez, de la vache folle, de la grippe aviaire, de la listériose. On fume, on mange mal, on est trop gras, mais on a peur de choses qui nous tueront pas. Il y a personne qui est mort de la grippe aviaire et de la vache folle en Amérique du Nord l'an dernier.
Non.
Mais il y a
50 personnes par jour qui meurent du cancer au Québec, et les deux tiers de ces cancers-là pourraient être prévenus en changeant notre mode de vie. Les conclusions du Fonds mondial de recherche sur le cancer sont fulgurantes quand on regarde des cancers comme le cancer de l'endomètre chez la femme, les cancers du tube digestif supérieur, le pharynx, le larynx, la bouche, la lèvre, la langue. C'est 60 à 70 % de ces cancers-là qui pourraient être prévenus en changeant nos habitudes alimentaires. C'est énorme. Alors, ça, c'est pas Richard Béliveau qui dit ça. Non, non. C'est le Fonds mondial de recherche du cancer. C'est Harvard, Duke, Stanford. C'est les plus grands centres d'oncologie au monde. C'est une étude. C'est un rapport qui a compilé 500 000 études. 500 000 études. Moi, j'en reviens pas que ça a été couvert de façon aussi anodine par les médias. Ça aurait dû faire la première page de tous les médias pendant toute la semaine parce que c'est un rapport d'une importance capital pour le cancer qui indique de façon indéniable.
Le Fonds mondial de recherche sur le cancer, contre le cancer, c'est quoi? C'est un organisme indépendant.
Indépendant qui chapeaute un ensemble de sociétés de cancer à l'échelle mondiale. Il a écrit ce rapport-là en association avec l'American Institute for Cancer Research, qui sont pas des nés de la dernière
pluie non
plus. Des amateurs, sont des plus grands regroupements de chercheurs en oncologie au monde. C'est vraiment international. C'est localisé aux États-Unis, en France, divers en Europe, en Grande-Bretagne, au Japon, partout. C'est à peu près 200 chercheurs, oncologues et cliniciens qui se sont réunis, qui ont fait une synthèse de 500 000 études et ils émettent 10 recommandations.
Alors,
c'est ce qu'on a mis dans notre livre.
Il y a une dizaine d'années, le Fonds mondial en question avait déjà fait un rapport. Ça s'appelait le cancer, l'alimentation et la prévention du cancer. Là, ils ont ajouté l'alimentation et l'activité physique dans la prévention du cancer. C'est un changement de cap, c'est un changement d'orientation pour vous?
Non, je pense que avec l'activité physique, on s'aperçoit que l'activité physique, on a toujours vu l'activité physique comme le muscle cardiaque qui travaille. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui que le fait de bouger, même si c'est pas du taekwondo olympique, là, le fait de bouger, le fait de mettre en action nos muscles déclenche des mécanismes anti-inflammatoires. Il y a une action systémique. Le tissu musculaire et glandulaire est endocrinien. Il relargue dans la circulation de certaines interleukines, certaines cytokines qui ont une action inflammatoire systémique.
On le comprend bien maintenant.
Maintenant, on est capable d'identifier. Comme le tissu adipeux est endocrinien, il crée un environnement inflammatoire pour permettre son développement. Il crée le développement des vaisseaux sanguins. Chaque livre de graisse que vous avez dans le ventre nécessite 400 à 500 kilomètres de vaisseaux sanguins pour se développer.
Kilomètres.
Et la création de ce milieu-là qui est provasculaire est extrêmement utilisée par les microtumeurs dont on a parlé tout à l'heure, qui profitent d'une biodisponibilité de facteurs de croissance vasculaire pour se vasculariser eux-mêmes. Et le passage d'une tumeur non vasculaire à une tumeur vasculaire, c'est ce qu'on appelle le déclenchement angiogénique, qui est le facteur majeur où la tumeur peut avoir accès au...
Ça veut dire fabrication,
De vaisseaux. Et là où la tumeur peut faire des métastases et relarguer en circulation des fragments de tumeur qui vont aller coloniser des tissus en périphérique.
S'implanter
et les
ailleurs,
décès en clinique du cancer, c'est rarement la tumeur primaire, à part les glioblastomes puis quelques autres tumeurs, c'est généralement les métastases. Donc, le développement des vaisseaux sanguins associés à l'obésité a comme conséquence de favoriser le développement tumoral. C'est un des exemples.
Et ça, je reviens là-dessus toujours parce que c'est important, c'est vraiment de la science, de laboratoire solide et dense.
C'est extrêmement dense. Il y a trois niveaux d'analyse qui sont utilisés. Le niveau épidémiologique, on le savait depuis les années 80 que les gens qui changent de pays voient le taux de cancer s'adapter à suivre les populations des pays vers lesquels ils immigrent, indiquant que le cancer était beaucoup moins héréditaire que ce qu'on croyait au départ. Ça, c'était le facteur premier. Donc, les données populationnelles sont clairement établies. Deuxièmement, on doit pouvoir isoler des aliments, des molécules aux propriétés avec des actions pharmacologiques spécifiques, bloquer le récepteur de facteurs de croissance VEGFR2 dans l'enjeu. Par exemple, ou bloquer.
Non,
ils
ont le pointu.
On est vraiment dans le moléculaire. On doit être capable de montrer des activités pharmacologiques spécifiques et on doit être capable de reproduire dans des modèles animaux auxquels on injecte des cancers, un effet de blocage, de régression ou de stabilisation des tumeurs. Trois niveaux d'évidence, in vivo, in vitro et populationnel. Tout ça, c'est concordant. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. On n'a pas encore tout trouvé. On est au premier balbutiement de cette recherche-là. Pourquoi? Bien parce qu'il n'y a pas de médicaments à développer là-dessus. Un laboratoire comme le mien, on dépense 2 millions par année, peut-être, en subvention. Notre budget de recherche en prévention, c'est 80 000 $.
Mais moi, je suis un laboratoire, là. On est connu pour la prévention. Mm-hmm. C'est pas parce qu'on travaille pas. On publie 12 à 15 papiers dans des revues médicales par année dans mon laboratoire. C'est pas parce qu'on n'est pas connu, là. On est très actif là-dedans, mais on a moins de 10% de notre budget qui est en prévention parce qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle.
Il n'y a pas de brevet.
De brevet qu'on peut générer de ces données-là. Ce qui fait que, et ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, on n'a pas de mentalité de prévention dans nos sociétés. On attend que les viaducs s'écroulent avant de penser à les entretenir.
Oui,
c'est la même chose en santé. On laisse notre santé se dégénérer, se dégrader. On souhaite la santé au jour de l'an, puis le reste de l'année, on oublie de prendre soin de sa santé. Les données de la recherche doivent nous amener à ce changement-là au niveau de la société. Mmh. C'est ce que fait le Fonds mondial. Mmh. Les recommandations qu'ils font dans leur rapport de la semaine dernière, c'est de dire au gouvernement créer plus d'espaces de jeu, créer des aires de marche, sortir la malbouffe des écoles, créer des repas délicieux, amener la bonne cuisine, la cuisine savoureuse sur les tables de vos citoyens.
La prévention,
la prévention.
Ça. Pas beaucoup de place dans ce que vous venez de dire depuis tout à l'heure, aussi bien en prévention qu'en traitement. Pas beaucoup de place pour les facteurs psychologiques, émotionnels, qu'on évoque beaucoup pour le cancer, fréquemment. Il n'y en a pas de place dans votre analyse?
Pas dans mon analyse, dans l'analyse de tous les chercheurs de la planète, le cancer.
Dans le rapport du Fonds mondial.
Non, zéro pour le stress. Le stress, le cancer n'est pas causé par le stress. Il y a des gens qui sont.
Ou par une blessure,
non,
ou par un événement.
Ça, c'est de la biologie totale. C'est de la pseudo-science.
C'est de la pseudo-science.
C'est clairement
ça démontré. Veut être clair là-dessus.
Les survivants des camps de concentration nazis ont les mêmes taux de cancer que la population juive standard. Moi, je dis aux gens.
Pourtant, ils ont eu des stress.
Ouais,
si
votre vie professionnelle est plus stressante qu'un camp de concentration nazi, il est peut-être temps de commencer à penser à changer de travail. Alors,
écoutez, ça,
c'est les parents qui ont eu des enfants décédés en bas âge. Ça aussi, c'est un niveau de stress immense.
Très élevé.
On a les mêmes taux de cancer que les parents d'enfants qui ont survécu. Il y a pas d'études systématiques et ça a été cherché avec beaucoup, beaucoup.
Les facteurs psychologiques pour guérir.
Entendons-nous, si vous avez un cancer
et
que vous développez une attitude positive, que vous faites du yoga, que vous faites de la méditation, tout ça, ça va vous aider à passer à travers les traitements parce que votre réponse au traitement va être améliorée, vous allez être plus détendu, vous allez avoir une attitude. Ça va vous aider à tolérer les effets secondaires des traitements, mais ça n'influence pas le pronostic avec lequel vous allez survivre au cancer. Mm-hmm. Tous les oncologues, cliniciens et chercheurs de la planète vont vous dire ça. J'ai connu n'importe qui travaille en oncologie, a connu des gens qui voulaient se battre, qui étaient ultra positifs, qui étaient ultra vainqueurs, qui sont décédés. On a connu des gens, des vieux chialeux, des vieux grincheux, qui mangeaient mal, qui faisaient
plus grand,
qui ont survécu. Non, mais des gens qui avaient des personnalités exécrables, qui ont survécu au traitement, qui ont passé à travers les traitements avec plus d'efficacité. On ne peut pas associer une attitude psychologique à l'efficacité d'un traitement. Il n'y a aucune étude qui montre ça. Mm-hmm. Il va peut-être en avoir dans le futur, mais il n'y en a pas présentement. Comme scientifique, il faut regarder des données. Il ne faut pas regarder des hypothèses de travail. Pour le tabac, pour l'alimentation, pour l'exercice, c'est clair et net. C'est 70% des cancers qu'on peut prévenir en changeant notre mode de vie. En arrêtant de fumer, en faisant de l'exercice, en maintenant un poids santé, en mangeant en abondance de fruits et de légumes et en se tenant loin de la malbouffe, c'est 70% des cancers qu'on peut prévenir. Ça, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mm-hmm. Que le stress joue pour un 5-10%, ça va être 5-10%, ça ne sera pas 70%. Parce que si c'était 60%, on l'aurait vu.
Depuis
on l'aurait
longtemps.
Vu depuis longtemps et on ne l'a jamais vu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un 2% des cancers pour tel type de leucémie ou tel type de glio, mais dire qu'un stress psychologique amène le développement d'un cancer, ça, c'est de la fumisterie scientifique totale. On est près de la biologie totale.
Oui,
on
oui.
est dans le délire des pseudo-sciences.
On va parler maintenant, Richard Béliveau, si vous voulez bien, un petit peu du sujet qui est dans le titre de votre dernier livre, Le plaisir de manger. Parce que bon, tout ça, on le sait que mal manger, c'est mauvais pour la santé, mais on continue à mal manger. Hein? Pourquoi? C'est la grande question. Pourquoi? Est-ce que parce qu'on n'a pas le plaisir de manger?
Non, je pense que...
C'est bon, un hamburger frites?
Les
gens aiment ça.
C'est très bon, mais c'est trois fois par semaine que c'est pas bon. Je dis toujours, manger une frite par mois ou par deux semaines, c'est pas grave. C'est d'en manger. Le moyen des Québécois mange 3 à 4 portions de frites par semaine. On consomme 1 à 2 boissons gazeuses. Il n'y a pas tant de choses que ça à bannir notre alimentation. Les boissons gazeuses, c'en est une. C'est juste des calories vides. Ça mène à l'obésité qui mène au diabète de type 2 et à toutes les maladies chroniques. Ça, c'est une chose simple à couper de son alimentation, les boissons gazeuses. On parle même pas des boissons supposément énergisantes, qui sont des boissons énervantes. Ça n'a rien d'énergisant. C'est des boissons excitantes qui sont pas
énergisante du tout. Ça, c'est à bannir. Les charcuteries, c'est à bannir. Et il faut redécouvrir les grandes cuisines du monde.
Un petit peu de saucisson sec, des fois, quand même.
Délicieux, à l'occasion.
Une fois de temps à autre.
Achetez-le, faites par votre boucher, plutôt qu'un produit industriellement transformé qui est très riche en nitrites. Il n'y a pas de problème avec les charcuteries faites maison. C'est pas de bannir des choses. Il faut redécouvrir les grandes cuisines du monde. Cuisine espagnole, italienne, grecque. C'est pas le fait de manger un sandwich au saucisson à l'occasion qui est problématique. C'est le fait que tous les jours, on mange des frites, on mange des produits frits, on mange des produits très transformés en farine blanche.
Faut
une chose simple à réintroduire dans notre alimentation, ce sont les céréales de grains entiers.
Oui.
C'est ce qu'on a mangé. Faut remanger pauvre. Dans l'histoire de l'humanité, c'était les pauvres. Les pauvres mangeaient plus sainement que les riches qui mangeaient plus de produits.
Oui.
L'obésité aujourd'hui, ça s'est inversé. L'obésité, c'était une maladie des riches jusqu'au début du 20e siècle. Alors, l'obésité aujourd'hui, c'est rendu une maladie des pauvres.
Exactement.
Les endroits des États-Unis, malheureusement, où les gens sont les plus pauvres, c'est là où la malbouffe a le plus de succès. Et on a un parallélisme entre la pauvreté sociale et l'épidémie d'obésité. C'est contre ça qu'il faut se battre.
Alors, je reviens au plaisir de manger maintenant. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être central, c'est quelque chose qui pourrait être important, effectivement, dans la nouvelle, dans une réorientation, au fond, de nos façons.
Elle est fondamentale. Je pense que cette réorientation-là est fondamentale. On doit avoir un plaisir. On doit retrouver le slow food. On doit pouvoir s'asseoir à une table, prendre le temps de manger. Dans toute l'histoire de l'humanité, le repas, c'est un moment de civilisation, c'est un moment de culture, c'est un moment de solidarité familiale, c'est un moment de solidarité d'amitié, c'est un moment de relation sociale, c'est un moment privilégié, c'est un moment de civilisation.
Donc, le plaisir, c'est pas seulement ce qu'il y a dans l'assiette, c'est ce qu'il y a aussi autour.
C'est tout le contexte, la musique qu'on écoute, le niveau sonore, la qualité de la table, la qualité de nos invités. On doit redécouvrir ça. Simplement, c'est pas la même chose le midi puis le soir, mais on doit redécouvrir ce plaisir-là, le plaisir de partager, de faire découvrir un plat à quelqu'un, de dire j'ai essayé une nouvelle place de tapas. Et j'ai fait ça hier soir avec deux amis médecins. Je lui ai amené une place de tapas que j'ai découvert l'an dernier. Ils étaient ravis. C'est un beau moment d'amitié, découvrir un bon restaurant à quelqu'un, un bon plat. Moi, quand je découvre un nouveau plat japonais ou espagnol ou grec.
Il vous reste des plats japonais à découvrir, je ne le crois pas.
Oui, il en reste. Ils ont beaucoup d'imagination. Les chefs. C'est un milieu de créativité, la cuisine.
Tout à fait.
Et c'est un milieu de créativité extraordinaire. C'est un milieu d'épicurien.
Et sur ce plaisir de manger, ce qui est intéressant, c'est que la science aussi s'est intéressée à ça. Là, il y a une dimension culturelle, mais il y a aussi une dimension physiologique.
Dans la dopamine, nos neurotransmetteurs qui sont associés au plaisir sont stimulés, sont produits par le cerveau lorsqu'on mange un repas qui est agréable. Mm-hmm. C'est comme ça que les chaînes de restauration rapide se sont développées, en créant des conditionnements associés à la satisfaction. C'est ça le problème, c'est que notre cerveau, dans l'évolution, consommer du gras et du sucre, c'est associé à survie. Lorsque les prédateurs tuent, ils mangent des tissus gras en premier, parce qu'il y a deux fois plus de calories par gramme de gras, par gramme de glucides ou de protéines. Et on aime le sucre, parce que le sucre est rare dans la nature, donc c'est une source rapide de calories rapidement disponibles. Notre cerveau adore manger et on doit lui donner ce plaisir-là.
Mais là, c'est contradictoire parce que si on adore manger du gras et du sucré,
Mais
ça va mal pour la santé, ça.
Mais il faut. Ben c'est parce que c'est rare dans la nature. Maintenant, on ouvre la porte de n'importe quel dépanneur et on a ça dans la nature. C'est extrêmement rare. Il fallait courir après une proie 10 fois en moyenne pour en attraper une. Un prédateur dans la nature tue 1 fois sur 10 à 1 fois sur 20, dépendant des prédateurs. Donc, vous dépensez beaucoup de calories pour attraper votre proie. Vous dépensez beaucoup de calories pour cueillir des plantes où il n'y a pas beaucoup de calories. En pratique, dans l'histoire de l'humanité, on dépensait beaucoup de calories pour en obtenir peu. Aujourd'hui, on ouvre la porte d'un dépanneur et on a millions de calories à notre disposition. Oh, c'est ça le problème.
Exactement.
On s'est sédentarisé en même temps. Et le plaisir, il est inéluctable parce que si on veut changer nos habitudes à long terme, il faut que le plaisir soit omniprésent dans nos tables.
C'est
faut pas
pour
manger
ça que
du
votre
chou.
Votre dernier livre. Oui, c'est ça.
Faut pas manger du chou pour combattre le cancer. Faut manger du chou parce que c'est bon. Une bonne soupe polonaise au chou, là, c'est délicieux. Du kimchi à la coréenne, c'est délicieux. Le chou avec l'ail, le piment, là, la fumée va vous sortir par les oreilles, c'est piquant, c'est délicieux, on mange ça dans des plats. Il faut redécouvrir ces plats-là. Quand on pense qu'il y a des milliards d'individus tous les jours qui consomment ces produits-là, les Chinois, ils savent cuisiner le tofu. Il ne faut pas inventer une recette avec de la sauce spaghetti avec le tofu. Vous faites un mapo tofu, un tofu à la chinoise, c'est ça qui est délicieux. Il faut intégrer ces aliments-là dans des plats qui, culturellement, ont été sélectionnés par des milliards de femmes dans l'histoire de l'humanité. Essayez pas d'inventer une recette de pois chiches. Ça fait 4000 ans que les populations du Proche-Orient cuisinent les pois chiches.
Ils ont tout
trouvé. Il est probable qu'ils aient des meilleures recettes que ce que vous allez trouver vous-même en fouillant dans votre cuisine. Mm-hmm. C'est être raciste et être intransigeant culturellement que de ne pas s'inspirer des cuisines du monde pour les amener sur notre table. Moi, je dis, la façon de redécouvrir le plaisir de bien manger, c'est de s'inspirer des grandes cuisines traditionnelles du monde de façon à nous apporter beaucoup de plaisir à peu de frais avec une grande diversité alimentaire. C'est ça qui va nous remettre la santé. Mm-hmm. Vous savez, moi, ce qui me déprime quand je vais dans un restaurant, puis que ce soit n'importe quel type de restaurant, un restaurant européen, par exemple, où on nous sert une belle pièce de viande, puis à côté, là, on a le brocoli, le damné brocoli cuit à l'eau. Là.
Oui.
Il n'y a pas un peuple sur la planète qui mange du brocoli cuit à l'eau.
C'est épouvantable.
Les Chinois, ils mangent ça sauté avec de la sauce aux fèves noires, avec des piments, avec de l'ail, avec du poulet, avec du porc, avec du bœuf, avec des crevettes. On mange ça sauté. On donne du goût aux légumes, les couscous. Le couscous, c'est le meilleur exemple pour moi. Grosse portion de semoule de blé, une céréale, beaucoup de légumes.
Beaucoup de légumes.
Et puis, un petit peu de viande, un petit peu d'agneau, un petit peu de merguez, un petit peu de poulet. La viande est essentielle parce qu'elle donne la saveur umami, qu'on explique dans le livre, la saveur d'acide glutamique qui est associée à l'aspect umami, ça veut dire saveur délicieuse en japonais.
Oui.
Ça apporte beaucoup d'umami au plat. Et la saveur de viande permet d'augmenter votre consommation de légumes. Nous autres, on sert la donnée petite carotte en éventail, cuite à l'eau, au micro-ondes et tout ça, et c'est pas bon. On les mange par punition, puis on les mange par dépit, puis on les mange en se disant « je combats le cancer ». C'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Il faut que la carotte ait été cuite dans des sauces avec la pièce de viande que vous consommez, de façon à ce qu'elle absorbe elle aussi les sucres, les saveurs, les épices, les aromates, l'huile d'olive dans laquelle, évidemment, que vous utilisez à remplacement de tout corps gras, parce que c'est le meilleur corps gras que vous puissiez utiliser, comme les Crétois, tous les Grecs, les Espagnols, les Italiens de cette terre le savent. Il faut redécouvrir la façon de s'alimenter qui a été celle de l'histoire de l'humanité pendant toute notre histoire jusqu'à il y a 50 ans.
Et finalement, grâce à ça, grâce à ce plaisir-là, on pourrait effectivement prendre le virage de la bonne santé. C'est le titre de votre dernier livre, Richard Béliveau, en conclusion.
Merci.
Et voilà qui conclut cette édition des Années Lumière, une émission réalisée par Dominique Lapointe avec à la technique Sylvain Brunet, les journalistes Gaëlle Lucia Berdou, Chantal Srivastava et Yannick Villedieu, journaliste au site Internet Lily Marin. Ici Sophie-André Blondin, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre édition des Années Lumière et d'ici là, passez une belle et une bonne semaine. Au revoir.